Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 200 000 civils ont fui la ville d'Afrin, assiégée par l'armée turque. Les troupes du régime syrien, alliées aux effectifs russes, frappent encore et toujours la route orientale. Nous ferons le point dans un instant avec à Beyrouth Nicolas Feldman. Après les accusations visant Vladimir Poutine dans l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-agent double de Skripal, Moscou annonce le renvoi de 23 diplomates britanniques. La Russie contre le reste du monde, équation idéale pour nourrir le culte de l'homme fort à 24 heures d'une élection présidentielle. Mayotte ne votera pas lundi dans le cadre d'une législative partielle. La crise est telle que les élus de l'île demandent le report de ce scrutin. Également au sommaire de ce journal, les révélations du site Mediapart qui vise Kering. Kering, expiné au printemps La Redoute, aurait échappé à 2,5 milliards d'euros d'impôts. L'affaire a éclaté quand la justice italienne a mené des perquisitions en décembre dernier dans les locaux de la marque Gucci, propriété de Kering, précision de Rome, d'Antonino Gallofaro. Et enfin, la Bulle Écho est consacrée ce samedi aux crypto-monnaies ainsi qu'à leur régulation. Se faire soigner à l'hôpital Mamoudzou de Mayotte devient problématique. Le port est bloqué depuis une semaine. Le 101e département français est en crise et les mesures égrenées en début de semaine à la faveur du déplacement de la ministre des Outre-mer n'ont pas apaisé la colère. Quatrième semaine de mobilisation, premier préavis de grève contre l'insécurité et contre l'immigration clandestine émis le 20 février dernier. Prendre la route n'est pas simple de surcroît. L'on dénombrait hier 11 barrages routiers, alors à quoi bon voter dans ces conditions ? Lundi devait avoir lieu le premier tour d'une législative partielle consécutive à l'invalidation en juin dernier de l'élection de la candidate La République En Marche. Scrutin reporté. Les explications de Sandrine Etoua-Andegue.
Ces maires, conseillers départementaux, parlementaires disent ne pas vouloir prendre de risques. Les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour que le scrutin prévu demain se déroule sereinement. Nous sommes des agents de l'État, nous sommes tenus d'organiser cette élection. Ils vont mettre à disposition les mairies, mais pour eux, il y a trop de tensions. Certains manifestants menacent de bloquer des bureaux de vote. Il y a toujours les barrages qui paralysent l'île et limitent les déplacements. Autant de raisons pour que cette élection soit reportée, disent les élus. Du côté de la préfecture, on assure que les 73 bureaux de vote pourront accueillir les électeurs. Il y a des cadres venus de La Réunion notamment, qui sont là comme appui juridique et technique auprès des municipalités. Très bien, répondent les élus, mais s'il y a des débordements, s'il y a un drame, on aura prévenu.
Sandrine Etoua-Andegue à Mayotte, grincement de dents, voire plus, quand le gouvernement dévoile les grandes lignes des contrats État-Région. 13 milliards d'économies sur la table, la moitié des présidents des exécutifs régionaux refusent d'ores et déjà de signer des plafonnements de dépenses publiques et des coupes dans les frais de fonctionnement. Seul candidat à sa succession, Jean-Christophe Lagarde, a sans surprise été reconduit ce matin à la tête de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. L'UDI qui a vu ces derniers mois les radicaux valoisiens quitter le navire pour sceller une alliance avec le Parti radical de gauche. En Syrie, deux fronts et des dizaines de milliers de civils en fuite. Deux fronts, la Ghouta orientale à l'est de Damas et Afrin au nord-ouest de la Syrie. Nous sommes en ligne, comme convenu, de Beyrouth avec notre correspondant Nicolas Feldman. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, quelles sont les informations en provenance de cette enclave de la Ghouta? D'incessants bombardements ont encore et manifestement fait des victimes ce matin.
Oui, 30 personnes tuées alors qu'elles tentaient de quitter la ville de Zamalka. Cela fait 3 jours que les civils fuient cette région du sud de la Ghouta. Depuis ce matin, la télévision d'État syrienne diffuse ces images en direct. Des dizaines de personnes, des hommes, des femmes, des enfants à pied, chargés de sacs, ils quittent la Ghouta sous les yeux de l'armée syrienne via le couloir d'Amouriyé. Pour cette seule matinée, aujourd'hui, 10 000 personnes auraient été évacuées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les habitants sont conduits vers des camps de fortune contrôlés par les autorités syriennes. Alors si le régime présente ces évacuations comme une libération des activistes. En revanche, dans la Ghouta, disent craindre des arrestations dans ces camps de fortune.
Et Nicolas, à Afrin, l'offensive menée cette fois par l'armée turque se poursuit avec un exode massif des populations.
Oui, Afrin, ville quasiment encerclée. Seul un couloir au sud permet encore aux habitants de fuir. Depuis mercredi soir, plus de 150 000 civils ont emprunté ce passage, un chiffre donné par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, car l'étau se resserre autour de la ville. De violents combats ont eu lieu toute cette nuit au nord. L'offensive lancée il y a 2 mois par la Turquie et soutenue par des rebelles syriens vise à chasser les Kurdes du YPG de cette région proche de la frontière turque. Les YPG, ce groupe soutenu par les États-Unis, mais qu'Ankara considère toujours comme terroriste. terroristes.
Merci à vous, Nicolas Feldman, en direct de Beyrouth. 14 candidats à l'exil périssent dans le naufrage de leur bateau au large de la mer Égée. Parmi eux, 4 enfants, information que l'on doit aux gardes-côtes grecs. Le Kremlin n'a pas supporté l'affront. Londres a accusé Vladimir Poutine d'avoir probablement, ce sont les termes, ordonné l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal. Impardonnable, ces accusations personnelles. Elles ne pouvaient rester sans suite. Il fallait réagir cette fois. Alors, la Russie a décidé d'expulser à son tour 23 diplomates britanniques. Égalité de traitement. À 24 heures des élections, la Russie défie l'ennemi avec bravoure. Claude Brouillot nous appelle de Moscou.
Le Kremlin avait le choix entre deux options, soit temporiser et laisser passer le week-end électoral qui marquera l'accès à un quatrième mandat pour Vladimir Poutine, soit enchaîner après l'annonce hier d'une enquête depuis Moscou concernant la tentative d'assassinat dont a été victime Yulia Skripal, la fille de Sergueï Skripal, l'ex-espion russe. Vladimir Poutine a donc décidé d'user de cette dernière solution. 23 diplomates britanniques seront prochainement priés de quitter leur poste en Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé également qu'il retirait à la Grande-Bretagne son autorisation d'installer un consulat à Saint-Pétersbourg. Et enfin, le British Council de Moscou, centre culturel britannique de la capitale russe, doit fermer ses portes. Le Kremlin va donc au-delà des sanctions britanniques et s'expose, il le sait, à une nouvelle salve de mesures en provenance de Londres, mais l'entourage de Sergueï Lavrov prévient que la Russie ira au-delà si nécessaire également. Tout cela pour faire grandir encore le contexte agressif à l'approche du scrutin présidentiel. Donc le calcul est très clair ici. Vladimir Poutine est persuadé que plus l'idée d'une Russie assiégée mais forte est présente dans les esprits du plus grand nombre, via notamment les grands médias fédéraux, plus son image de commandeur résistant en quelque sorte assoit encore davantage la victoire dans les urnes qui se dessine.
Explosion, la voiture piégée ce matin à Kaboul, 3 morts et 2 blessés dans le district de police de la capitale afghane. Aujourd'hui à Kaboul, rencontre entre le conseiller à la sécurité nationale du Pakistan et le président afghan Ashraf Ghani. Il est question du processus de paix et de l'offre de négociation faite aux talibans. En Afrique du Sud, le procureur général annonce d'imminentes poursuites à l'encontre de Jacob Zuma, poursuite pour corruption dans l'affaire d'un contrat d'armement d'un montant de 2 milliards d'euros. Le porte-parole de l'autorité nationale chargée des poursuites précise que l'ex-président, poussé à la démission le mois dernier par son parti, devra répondre de 16 chefs d'inculpation. Il aurait touché des pots de vin pour acheter de l'équipement militaire à des entreprises européennes, dont la française Thales. Un autre géant de l'économie française, Kering, ex-Pinot Printemps La Redoute, excellerait au chapitre évasion fiscale. Selon Mediapart, qui a transmis ces informations au réseau européen d'investigation, selon Mediapart, le groupe a échappé à 2,5 milliards d'euros d'impôts entre 2002 et 2017 via une plateforme de logistique et de distribution basée en Suisse, dans le canton du Tessin, là où le taux d'imposition est limité à 8%. Tout aurait commencé, à vrai dire, de l'autre côté de la frontière, à 1h30 de route de là, à Milan, dans les murs de la société Gucci, rachetée par l'Empire Pinot Printemps La Redoute en 1999. L'affaire a véritablement éclaté lorsque la justice italienne a mené des perquisitions dans les bureaux de Gucci au mois de décembre dernier. Rome, Antonino Gallofaro.
Une évasion fiscale à hauteur d'€1,3 milliard. Le parquet de Milan mène une enquête sur cette accusation contre Gucci. L'affaire a été révélée par la presse italienne en décembre dernier, lorsque la garde des finances a perquisitionné les bureaux de la marque de luxe à Milan. La Stampa expliquait alors que le schéma était toujours le même. Le travail, les affaires et les ventes se déroulent en Italie, mais formellement, le siège est à l'étranger, dans ce cas en Suisse. Grâce à des documents confidentiels transmis à un réseau de médias européens, révélés par Mediapart en Italie, par l'Espresso, on apprend cette semaine que cette affaire Gucci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce mode opératoire, selon ces médias, serait étendu à d'autres marques du groupe français Kering et dans d'autres pays. 2,5 milliards d'euros auraient ainsi été soustraits aux impôts depuis 2002. Le cas Gucci serait le plus conséquent. Mais selon l'Espresso, le centre logistique du groupe près de Lugano, en Suisse, gère aussi la distribution de marques comme Bottega Veneta, Yves Saint Laurent ou Stella McCartney notamment. L'hebdomadaire italien a fait le calcul. Le traitement fiscal en Suisse est plus généreux, 8% contre par exemple 30% en Italie. Dans un communiqué, Kering indique qu'il a mis en place une gouvernance d'entreprise visant à assurer une conformité totale avec les réglementations fiscales dans les pays où il est présent.
Antonino Gallofaro à Rome, ce n'est pas la première fois qu'ils descendent dans la rue. Les retraités espagnols manifestent une fois de plus leur mécontentement compte tenu de la très faible revalorisation de leurs pensions, cortège dans de nombreuses villes du pays. Il est 12h et presque 41 minutes sur France Culture, l'heure de la bulle écho. Une bulle écho consacrée aux crypto-monnaies ainsi qu'à leur régulation, sujet qui doit être discuté lors du sommet du G20 qui débute lundi à Buenos Aires. Une bulle signée surtout, Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour. Assiste-t-on à l'émergence d'un nouveau modèle où les échanges pourront se faire sans banque ou bien au moment où une innovation se normalise? Il y a quelques semaines, le cours du Bitcoin s'envolait, de quoi affoler les investisseurs, faire les unes de la presse et attiser l'intérêt d'un plus grand public pour les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont une dizaine d'années, mais depuis quelques mois, elles intéressent bien au-delà des cercles d'initiés. Conséquence, banques centrales et États se demandent aujourd'hui comment réagir et un certain nombre d'entre eux veulent désormais les réguler. Ce sera d'ailleurs à l'ordre du jour des discussions du G20 la semaine prochaine à la demande de la France et de l'Allemagne. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut distinguer deux choses. D'abord, il y a la blockchain. C'est le nom de la technologie. Elle permet une nouvelle manière d'échanger. En résumé, de faire des transactions de façon sécurisée, tout en se passant des intermédiaires qui d'habitude assurent ce rôle de contrôle, c'est-à-dire les notaires, les banques, etc. Et puis, il y a les usages qui reposent sur cette technologie. Parmi eux, les monnaies virtuelles ou crypto-monnaies. La plus connue, c'est le Bitcoin, mais il y en a environ 1300 de répertoriés dans le monde. Et certaines, Ether, Ripple par exemple, connaissent aussi un essor important. Ici, pas de banque qui fixe un cours, d'où les grandes variations. La valeur ne dépend que de l'offre et de la demande. Il faut se rappeler que c'est précisément contre les banques qu'ont été créées les crypto-monnaies, une réponse d'inspiration libertarienne à la crise financière et au pouvoir des banques.
Je pense que nous avons besoin de régulation du Bitcoin. Je suis là pour garantir la sécurité aux épargnants. Il y a un risque spéculatif évident, il faut le regarder, l'examiner et regarder comment est-ce qu'avec tous les autres pays membres du G20, nous pouvons réguler le Bitcoin.
Bruno Le Maire n'est pas le seul à vouloir réguler. Le mouvement est international avec des approches très variables d'un pays à l'autre, allant jusqu'à l'interdiction en Chine ou en Corée du Sud. Le premier point sur lequel s'accorder, c'est de quoi parle-t-on? S'agit-il bien d'une monnaie? En France, la position des institutions, Banque de France, Autorité des marchés financiers, mais aussi celle de l'exécutif est désormais tranchée. C'est non, le Bitcoin et les autres ne sont pas des monnaies, car elles n'en ont pas tous les attributs. Par exemple, leur rôle d'échange est limité, vu qu'on ne peut pas payer partout en Bitcoin. La France préfère donc parler de crypto-actifs, autrement dit ces jetons ou tokens que l'on peut acheter sont des actifs virtuels, le plus souvent utilisés pour investir. Face à leur essor, la Banque de France vient de faire une série de propositions pour faire évoluer la réglementation, et cela en fonction des risques qu'elle a identifiés. Le premier, c'est la manipulation des marchés, possible si peu de personnes détiennent beaucoup d'actifs. Ensuite, il y a le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les transactions sont sécurisées, authentifiées mais anonymes, on ne sait pas qui est derrière. La Banque de France propose d'appliquer aux plateformes, qui transforment les jetons en euros, des obligations de transparence. Autre enjeu, la protection des investisseurs et consommateurs, c'est d'ailleurs l'une des principales justifications avancées pour réguler. La Banque de France préconise d'encadrer les placements en crypto-actifs et d'interdire les activités de dépôt et de prêt en crypto-actifs. Ces propositions nourriront la position de la France dans une discussion qui s'annonce internationale. Les différentes options seront débattues pour la première fois entre les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales la semaine prochaine. Mais cela ne suffira pas à répondre aux questions de fond que cela pose. Est-il nécessaire d'interdire, intégrer, réguler? Est-ce que cela signifie adapter la réglementation à de nouveaux objets financiers ou mettre fin à ce qui a présidé à leur création et transformer ces innovations en toute autre chose?
Ainsi se referme la bulle éco signée Catherine Pétillon. Les quelques mots de la météo de l'après-midi, rafraîchissement sur tout le pays, temps couvert et faiblement pluvieux des côtes de la Manche au nord-est avec risque de flocons en plaine du Nord-Pas-de-Calais au nord de l'Alsace sur les deux tiers sud, ciel plus variable. Édition préparée avec François-Charles Domergue, la technique Jean-Frédéric, auquel je destine cette information, c'est Sakura au Japon, autrement dit le printemps et les cerisiers sont en fleurs.